Bien, bonsoir. J'espère que tout le monde va très bien. Et ce soir, tel que promis, j'ai dit que je ferai un live à la suite du combat, ben à la suite du gala pour jaser, puis sacrement. On a un paquet de styles d'affaires à jaser. Fait que je vais juste attendre que le monde se logue tranquillement, pas vite, puis on va procéder à discuter de, ben, toutes les styles d'affaires qu'on a envie de discuter, là, notamment le combat de main event, mais. I guess que tout le monde va probablement avoir envie de parler aussi du combat de championnat bantamweight. Fait qu'on va parler de tout ça. J'attache le monde. Puis si je parle pas super fort, ben c'est parce que je suis pas chez nous. Vous pouvez voir, là, je suis dans un décor différent. Je suis un de mes amis. Puis lui est fatigué as fuck. Fait qu'il est parti se coucher. Fait que c'est pour ça que ben, je parle pas super fort. Puis que c'est ça. Je fais pas mon setup habituel. Mais bon. Alors, Jan Błachowicz a battu Israel Adesanya dans le main event de cette soirée-là par décision unanime dans un combat correct. Genre, bon petit combat, quand même un slow burn, là, je vous dirais, mais un combat assez stratégique, un combat assez tactique. Le score est weird, je suis d'accord avec le gagnant. Je suis pas d'accord avec la décision. Je pense vraiment que c'était 2 à 2 là, en rentrant dans ce cinquième round-là. Puis oui, Błachowicz a clairement gagné les deux derniers rounds, mais moi j'ai donné en fait 1, 4 et 5 à Błachowicz. J'ai donné le 2 et le 3 à Israel Adesanya. Le 2 a pu aller d'un bord comme de l'autre. Fait que tu sais, 49-46, je ne vais pas nécessairement m'ostiner avec le score. 49-45, je ne sais pas. Là. Oui, il y a eu des bons moments au sol où il était en contrôle positionnel pendant de longs moments sur Israel Adesanya, mais de là à donner un 18, je ne sais pas. Mais écoute, le score, au final, je pense qu'on s'en fout parce que la bonne personne a gagné. Clairement, dans ce combat-là, Israel Adesanya est resté très tactique. Il savait qu'il ne pouvait pas devenir trop wild, puis laisser la chance à justement Jan Błachowicz de planter ses pieds, puis d'y en sacrer un bon coup du Legendary Polish Power là, qu'on a vu knocker plusieurs gens dans les derniers temps. Fait qu'il a réussi à éviter ça. Ça a fait que son output était moindre, je dirais, là, par rapport à ses meilleurs moments. Mais tu sais, on l'a vu contre Yoel, on l'a vu contre Anderson Silva. Israel Adesanya, il a pas peur là, de rester at range, puis juste comme essayer de pick apart ses adversaires-là. Personnellement, là, c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Je trouve ça assez bien marché généralement. Je le sais que au round 1, round 2, il n'y a pas eu le gars de. Pas eu le nombre total de significant strike à son avantage, mais c'était vraiment très serré. Puis j'ai l'impression que Jan Błachowicz réagissait tellement là, aux feintes d'Israel Adesanya dans ce combat-là, surtout dans les premiers rounds, c'était fou. Dès que Adesanya fakait un genou, tu avais des grosses réactions là, de Jan Błachowicz. Puis je pensais qu'elle allait réussir à, justement, avec une de ces feintes-là, réussir à passer quelque chose puis à faire mal à son adversaire, mais clairement, il était pas assez gros là, dans la gueule. Puis pourtant, il avait pas l'air vraiment plus petit qu'Israel Adesanya. Il avait l'air moins tic que Jan Błachowicz, c'est-à-dire, il avait l'air moins tic, évidemment, mais il avait pas l'air si petit à côté de lui, mais clairement, ses strikes, oui, il landait. Oui, c'était slick ce qu'il faisait. Il était bon à distance. Puis je pense que même si Błachowicz a landé plus de strikes dans les deux premiers rounds, je pense que genre, Izzy avait pas mal l'avantage du combat debout, bien que c'était très serré, mais il faisait les meilleures choses debout, bref. Mais super bel ajustement de la part de Jan Błachowicz qui a réussi à aller chercher les takedowns. Puis tu sais, au sol, oui, il y avait quelqu'un de très lourd par-dessus lui, mais aussi, on a vu là, qu'Israel Adesanya, il y a une couple de notions au sol qui n'a pas tout à fait intégré encore. Tu sais, comme dans la half guard, de la manière qu'il essayait de bridge, mais il allait chercher un underhook, mais du mauvais côté. Tu sais, il faut toujours aller chercher le underhook du côté de la half guard, dans le fond, du côté de la jambe de ton adversaire qui t'emprisonnante tes deux jambes dans la half guard. Tu vas chercher un underhook de ce côté-là. Tu peux essayer de prendre le dos, tu peux te relever sur tes genoux, tu peux faire plein de choses à partir de là. Adesanya laissait l'underhook du côté de la half guard, donc tu faisais flatter sur son dos, puis allait chercher l'underhook de l'autre bord, mais quand tes jambes sont là, puis t'as l'underhook là, tu peux pas sortir du bord inverse de tes jambes, tu comprends? Fait que, juste des petites notions que, justement, il y avait pas tout à fait, puis que ça fait justement à Chris qu'il y avait de la misère, man. Il y avait vraiment de la misère. Puis c'est ça qui est arrivé. Il a perdu au sol. Et puis C'est Jan Błachowicz qui a gagné ce combat-là. Puis on peut parler du co-main event maintenant. Co-main event où, ben, Amanda Nunes a complètement décalissé son adversaire. Puis écoute, l'affaire qu'on peut genre take out de ce combat-là, comme Seb dit, c'est que la GOAT, c'est pas pour l'animal, la chèvre, là, c'est vraiment un acronyme pour Greatest of All Time. Et quelqu'un qui a noté ça sur ma application Facebook, là, je trouve ça vraiment intéressant. D'apprendre ça ce soir, c'était pas une joke là, quand je l'appelle la chèvre Lyon, c'est pas un meme ni rien. T'sais. Fait que, ben non, regarde, elle a décollé Megan Anderson avec un triangle inversé qu'elle a fini en armbar. Puis ça, c'est pas vraiment des affaires que tu passes à des gens high level. Puis je veux pas dire que Megan Anderson n'est pas high level, mais d'un autre côté, je ne veux pas vraiment dire qu'elle est super high level parce que c'est vraiment fait démonter le paramètre de Nunes. Ça n'a jamais été un combat. Pas en tout. Elle s'est fait mopper complètement. Puis, je sais pas qu'est-ce qui est next là, pour Nunes. Il faudrait checker. Puis t'as Juliana Peña qui texte, là, qui tweet genre fight me, Amanda Nunes, fight me. Mais tu sais, entre vous et moi. Amanda a complètement dévasté les deux divisions. Là. Genre, complètement dévasté les deux divisions. 145 livres existent. Genre, il y a 2-3 filles dans cette division-là qui sont juste là pour se faire péter par Nunes. 135 livres. Elle a battu Germain deux fois. Elle a battu Holly Holm. Elle a battu toutes les tops dans la division. Enfin, je sais vraiment pas ce qu'elle peut faire. Ils peuvent la mettre contre Peña. Ça, I guess, ça peut être un combat en attendant. Mais est-ce qu'on va vraiment s'attendre à un résultat différent? Pas vraiment. Fait qu'allons-y, là. Parlons-en de ce que tout le monde, clairement, là, veut parler ce soir. Oh, man. Quelle erreur de Peter Yan, hein? Ou de son coin, ou de je sais pas trop, là, qu'est-ce qui est arrivé. Parce que, clairement, ils se sont retrouvés dans la position où Peter Yan le tenait, puis attendait clairement qu'il se lève pour y coller un coup de genou dans la face. Et puis, ben, ça venait pas, puis ça attendait, puis il checkait son coin, puis il avait l'air comme d'être en communication. Finalement, il a fini par casser le coup de genou dans la face, puis ça en était tout un. Aljamain Sterling a clairement été plus capable de poursuivre ce combat-là. Puis, tu sais, je veux pas tout de suite rentrer dans la discussion des gens qui disent que oh, le méchant bon acteur, il a faké, nanana, puis c'est une façon cheap de gagner à belt. Big Darn, le gars, il a fallu que les gens l'aident jusqu'à backstage pour. Il n'était pas capable d'être debout par lui-même. Il n'a pas été capable de faire son entrevue debout. Il était assis sur une chaise de même, le regard bien vite en broyant. Parce que clairement, et genre, il ne veut pas que le combat se termine de même. Même que avec toute la peine et la misère qu'il avait à être debout, pendant que ses amis le tenaient pour qu'il réussisse à rester, il essayait d'enlever la belt d'après lui et de la laisser là tellement qu'il ne veut pas. Genre, prendre cette belt-là, puis prendre cette victoire-là, au final, c'est, qui fait de lui le champion de l'UFC, comme une victoire. T'sais, il ne voulait pas que ça se passe de même, puis personne ne voulait que ça se passe de même, évidemment. Mais c'est ça qui est arrivé, et puis... genre... c'est triste. C'est vraiment triste comme fin de combat, parce que c'était vraiment un beau combat. Aljo a commencé en force, avec un beau premier round, gros pace, mettait la pression. Puis oui, Peter Yan est un gars que, si t'es vraiment un fast starter, je pense que c'est la manière que tu vas pouvoir exploiter Peter Yan en général, parce que c'est vraiment difficile pour lui au premier round de se mettre dans son rythme. C'est un gars qui a besoin d'avoir beaucoup de reads avant, justement, de commencer à lancer des combinaisons, à lancer du volume, à lancer du power. Puis on a vu qu'il a vraiment pris le premier round tranquille. Aljo a mis un bon pace, établi un bon pace. On a vu tout de suite dès le départ que ça allait pas être un combat facile, mais dès le deuxième round, on voyait que Peter Yan commençait justement à être plus confortable, à avoir ses reads, puis un peu à take over, sa takedown defense absolument magnifique. Puis tu sais, et au moment où le legal knee est arrivé, selon moi, Peter Yan gagnait ce combat-là, puis ça s'en venait de moins en moins serré. C'est à partir d'un combat très serré, un combat de moins en moins serré, puis je dirais même que Peter Yan est en train de dominer au quatrième round, au moment où, malheureusement, les LRC, un illegal knee qui est colissement illégal, là, on s'entend, entre vous et moi, c'était 100% illégal. C'est l'arbitre qui a dit « ease down », puis il l'a lancé quand même. Il méritait 100% la disqualification aussi. Là. Puis c'est genre vraiment plate qu'il y ait un titre qui change de main comme ça. Mais c'est ça qui est arrivé. Il y a bien de la petite spam bizarre dans les commentaires sur Facebook, sacrément. Qu'est-ce qui se passe, man? Tabarnak, je vois ça popper les commentaires. C'est bizarre, les boys. C'est bizarre. Mais bref, non, je veux savoir ce que vous pensez du stoppage. Je veux savoir que. Qu'est-ce que vous pensez justement d'Aljamain Sterling, de sa réaction? Parce qu'il y avait du monde qui disait, ah, il fait qu'il a joué à l'acteur. Tabarnouche, les boys, vous avez jamais mangé un coup de genou straight flush dans la face pour dire ça. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'avait jamais mangé de coup de genou ce soir qui ont commenté là-dessus. Parce que tabarnouche, Aljo, il n'a pas été capable physiquement. Puis l'arbitre se battait, là, se mit avec pour qu'il reste par terre. Puis Aljo essayait de se relever, essayait de s'asseoir, retombait, essayait de comme tout faire pour pas que le combat se finisse de même, parce que c'est de l'estimante que le combat se finisse de même, puis ben, il a pas été capable, puis là, il est champion, puis il va avoir un rematch, puis pour être bien honnête avec vous, je pense que à ce qu'on a vu dans ce combat-là, le Petr Yan va devoir être un peu plus favori qu'il l'était dans ce combat-là, parce que tabarnouche, il gagnait, puis je pense qu'avant ce qui est arrivé, qui a causé la disqualification. Petr Yan était en train de prouver que ben, c'est un champion du monde. C'est un championship level fighter. C'est le meilleur 135 livres au monde. Et puis, ben, man, on va s'en rappeler. Je pense qu'il ne fera plus. Il y a de très bonnes chances qu'il ne fasse plus. Parce que sacrifice, mon gars. Tu parles d'une manière bizarre de finir un combat. Les combats d'avant, maintenant. C'est-tu moi où genre les prelims ont été complètement fous? Puis la main card, les deux premiers combats ont comme un peu enlevé du momentum dans la main card. Parce que tabarnouche. Islam Makhachev, Drew Dober, moi je vais vous dire, ben franchement, j'ai zone out un peu pendant ce combat-là. C'est le bout de la soirée où je commence à écouter. J'étais un peu fatigué. Le combat de Thiago Santos-Rakic avait été slow avant. Puis là, ce combat-là, pas que c'était pas beau ce que Makhachev faisait. Il a complètement moppé le sol avec Drew Dober. Une domination de A à Z qui a fini par une soumission. Mais écoute, je sais pas, man, j'ai zone out un peu pendant ce combat-là. Ça a été pas, mettons, la partie de la soirée où il y avait le plus de momentum. Fait qu'en tout cas, je veux qu'on revienne un peu là, sur des commentaires des gens. Sachez qu'Aljo est en blackout et en ce moment, il passe une nuit atroce d'une maman. Oh, yo, ça ira pas bien les prochains jours pour Aljo. Là, il a fait une sévère commotion là-dessus. Tu l'as vu, là, il essayait de bling, tu sais, ses yeux remettre, genre, ses yeux à la bonne place. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? T'sais, il essayait de bling pour se remettre genre dans le combat pour dire alors je suis pas complètement je le sais, je suis où les boys, check ça docteur, si je suis conscient, laisse-moi me battre s'il te plaît, mais on était plus capable de se lever ni rien. Je crois pas qu'il fakait, mais même s'il en a mis un coup de genou comme ça, c'est évident que ça fait ouais non mais gros, c'est ça l'affaire, c'est qu'il en a pas mis. Je pense que au contraire il a vraiment fait genre le plus en son pouvoir pour que le combat ne soit pas arrêté. Mais clairement, il n'était pas capable. Clairement, le gars était complètement out of it. Tu l'as vu dans l'entrevue après. Puis Joe Rogan, il n'a pas fait une bonne job sur cette entrevue-là. Je ne sais pas ce que vous pensez de la performance de Joe Rogan dans l'entrevue. Mais il est là à dire ce que Khabib a entendu, que le coin de Petr Yan a dit. Puis là, il est en train de tout expliquer ça à Aljo. Puis là, Aljo qui est là, même. D'un, il broye parce qu'il veut pas que le combat se soit fini de même. De deux, il est assis, il a le regard, il regarde dans le vide, il regarde nulle part, le gars. T'sais. Puis là, t'as Rogan qui essaie d'y expliquer des affaires comme si Aljo allait genre comprendre ce qui arrivait. Puis en tout cas, il n'y a pas absolument rien qui arrivait, man, pour être bien honnête avec toi. Là. C'était une drôle de manière de faire cette entrevue-là d'après combat. Mais bref, non, c'est ça, je pense que pour vrai, Aljo a tout fait en son pouvoir pour pas avoir l'air trop knocké, puis il n'a pas été capable, il était knocké ben raide, le pauvre dude. Mais je pense pas qu'il en a mis pas en tout. L'autre question, je veux ton avis, c'est quand ça devient illégal, genre 3 points d'appui au sol, c'est quoi qui fait que ce hit est illégal? Écoute, cette règle-là, là, apporte à la confusion. Parce que 3 points d'appui, là, c'est quand tu es debout. Mettons, tu es debout, OK? Tu as tes 2 pieds au sol et une main au sol. Tu es considéré comme un downed opponent parce que tu as 3 points d'appui. À la seconde près que tu as un genou à terre, tu es un downed opponent. Peu importe que tu aies une main au sol, 2 mains au sol, puis genre, t'es down, là. Tu peux avoir le nombre de mains au sol que tu veux si tu as un genou par terre, tu es un downed opponent. Donc, l'affaire des 3 points d'appui, ça ne marche que quand, mettons, t'as un gars qui, traditionnellement, comment ça se passe, il est contre la cage, puis là, t'as l'autre dans son dos, puis il a ses deux mains, puis il garde une main à terre pour empêcher de se faire un knee d'en face ou pour garder comme un genre d'équilibre pour pas juste se faire take down par en arrière. Là, à ce moment-là, c'est un down d'opponent parce qu'il y a trois points d'appui. Si le gars est à genoux à terre, puis l'autre, il a sa tête à deux mains, puis il te calait sur un genou d'en face, c'est un down opponent. C'est illégal, c'est 100% illégal, c'est pas unintentional, c'est 100% intentionnel parce que l'arbitre, il a dit que, ben, basically, man, il est down. L'arbitre venait de dire « he's down », puis Yann le fait quand même. Donc, méga crampe au cerveau, il a perdu sa belt, après il va regagner, mais bref. On a un autre commentaire. Comment tu peux dire que tu as zone out sur le combat de slam big? Je m'excuse, man. J'ai pas fait exprès. J'étais juste fatigué, puis j'ai manqué comme 2-3 minutes du deuxième round. Puis c'est à cause que Thiago Santos est contre Alexander Rakic avant. C'était plate en mort. Ça m'a vraiment genre fait comme descendre mon rush genre des prelims qui étaient vraiment excellents. Même les décisions, ces prelims vraiment excellents. Puis là, le début, puis là, c'est slow. Une slow pace fight à distance. Tu sais, où il se passe pas grand-chose. Puis Rakic est hésitant. Puis il essaie des takedowns, mais il réussit même pas. Puis Santos fait genre Jairzinho Rosenstrike game plan, là, littéralement. Fait que ce combat-là m'a complètement mis down. Puis après, pendant le combat d'Islam Makhachev, ben j'ai zone out un peu. Mais oui, comme tu dis, très, très beau takedown, très précis. Next champ, je le sais pas. Parce que, honnêtement, il manque un petit quelque chose à Makhachev. Tu sais, comme Khabib, qui a le même game plan, ou presque. Il est beaucoup plus explosif, fait ses choses avec beaucoup plus de rapidité. La manière que Khabib est debout, puis à un moment donné, boum, c'est téléporté dans tes jambes, puis tu as eu le temps de rien voir, tu sais. C'est quelque chose que Makhachev n'est pas le même genre d'athlète. Il a le même genre de technique, le même genre de game, mais n'est pas le même genre d'athlète que Khabib. Fait que pour moi, Islam Makhachev, oui, il a une excellente game, il est super technique là, au sol, sa lutte, sa submission game, là, la transition sur le armbar qu'il a fait au premier round, complètement débile, là, genre absolument magnifique. Mais je ne sais pas si quand il va arriver contre un Gaethje, contre un Poirier, contre des super athlètes, genre qui sont autant techniques que forts, que rapides, que explosifs, je pense que ça va être un peu plus dur pour Islam que Khabib. Surtout que Islam a vraiment plus une control game au sol. Tu sais, Khabib, il est très bon au sol, puis il est capable de contrôler ses adversaires-là, mais ce qu'il préfère, c'est vraiment de y aller balls to the walls, lancer beaucoup de ground and pound, quitte à ce que son adversaire réussisse à se relever, parce qu'anyway, il va le take down de nouveau, puis ça change rien sur son gas tank, pas en tout. Makhachev est un peu plus dépendant sur son ground control, est un peu plus dépendant sur amener le combat au sol, puis essayer de contrôler son adversaire, puis d'avancer sa position jusqu'à une soumission. T'sais, il peut pas, comme Khabib, juste un peu plus rely sur son athléticisme, puis y aller balls to the walls avec beaucoup de dommages, beaucoup de ground and pound, quitte à ce que son adversaire se relève, parce qu'il va leur take down. Donc, je pense que c'est quelques petites différences qui me font croire que ça va peut-être être plus dur pour Islam que pour Khabib de devenir champion du monde, mais écoute, vraiment un excellent combattant, on s'entend, je pense, potentiel top 5 dans la meilleure division au monde, fait, même s'il ne devient jamais champion, vraiment excellent combattant. Bref, déçu de Santos contre Rakic, je crois que Santos a perdu un mobilité après sa blessure ici, contre, bon, ouais, un peu, puis tu sais, comme tu vois Rakic après le combat, ils ont, tu sais, je sais que ça enlève vraiment comme bad de dire ça, mais tu sais, c'est le MMA, donc c'est sûr que j'essayais de targeter son genou refait, parce que c'est moi tout juste opération-là, puis je sais comment c'est de la merde, fait que je sais que si je le blesse avec ça, il pourra pas gagner le combat, puis tout, fait que je pense que c'est une grosse partie de la stratégie, là, probablement pour Alexander Rakic, là, de s'attaquer au genou, puis je sais pas s'il a perdu sa mobilité, Santos, tant que genre, il est plus gun-shy un peu. Tu sais, Thiago Santos, ça n'a jamais été un gars super immobile. Il était genre, oh, check son mouvement, wow, c'est incroyable. Non, c'est un gros Muay Thai guy qui plante ses pieds, qui va de l'avant, puis qui n'a pas peur juste d'être un peu jambon, tu comprends? Parce que justement, il est technique, il est puissant. Fait que le fait d'être jambon, puis d'inciter un brawl, il réussit à être plus technique que son adversaire dans le brawl, puis c'est là qu'il réussit à passer beaucoup de knockouts. Mais là, il est un peu plus gun-shy, assez moins d'aller chercher ce brawl-là, puis ça donne des genres de combats à range où les deux sont un peu hésitants, puis tu sais. Comme je disais à Charlot pendant le combat, Alexander Rakic, c'est bien triste, vient de battre deux top guys dans la division, mais on dirait qu'il essaye le plus fort possible de, à la fois, ne jamais perdre, tout en n'allant jamais chercher un combat de championnat parce que ses performances sont pas assez impressionnantes. Ah, mais en même temps, comment tu le bats, Islam? Comment tu le bats? Écoute, il va falloir que tu sois un très, très bon lutteur, mais surtout un bon scrambler, puis quelqu'un qui est capable d'être explosif, quelqu'un qui est capable, tu sais, genre, l'athlétisme, c'est un cheat code. Genre, tu peux être vraiment meilleur lutteur que quelqu'un, mais vu que cette personne-là est plus athlétique que toi, plus explosive que toi, peut générer plus de power, plus de drive, tu sais, quand 40, des fois, quelqu'un va rentrer avec un beau takedown, mais il n'y a pas assez de drive, tu sais, vers l'avant. Puis la personne plus athlétique va pouvoir justement sprawler, se sortir de ce takedown-là. Comme il y a des gens qui peuvent être un peu moins techniques, mais excessivement puissants, puis qui vont réussir la majorité de leurs takedowns, même si des fois ils sont ratés. Le meilleur exemple de ça, je le dis tout le temps, mais c'est Kamaru Usman. Kamaru Usman, c'est un gars qui va vraiment être en mesure de rater son takedown, mais il est tellement fort physiquement, il est tellement gros, puis il est tellement une drive quand il va de l'avant que s'il réussit à fermer ses mains ensemble, même si son shot n'est pas super beau, il va probablement réussir à takedown quand même. Donc, c'est ça qui manque chez Islam un peu, mais qui manque. T'sais, c'est juste pas un atout avec lequel il est né. Là. C'est juste plate à dire. On peut pas tenir ça contre le gars. Il est juste pas autant un bon athlète que Khabib. Puis d'après moi, quand il va arriver contre les super athlètes dans la division, c'est là que ça va être difficile. Parce que qu'est-ce qui fait que Khabib a été capable d'imposer son game plan sur tout le monde? C'est que oui, c'est un très bon lutteur, très technique, mais il est vraiment plus athlétique que tout le monde. Et même contre des gars très athlétiques qui étaient capables justement d'imposer ce game-là. Makhachev arrive avec beaucoup de technique, peut-être pas l'athlétisme du top level, donc je pense que c'est un peu ça qui est ça. T'as Manu qui nous demande c'est qui le next contre Islam. On a une suggestion ici, Chandler contre Islam. Je pense que c'est un bon fight. Tu peux lui donner un... Tu book Oliveira, tu peux donner Charles Oliveira. Tu peux lui donner... Si tu veux le slow build encore un peu plus, tu peux lui donner un... Raging Out, Paul Felder, Rafael Dos Anjos. Il était booké contre Rafael Dos Anjos, mais sans moi, je referais ça. Je referais ce combat-là. Rafael Dos Anjos. Comme ça, s'il bat, se retrouve 5-6e dans la division, puis c'est là qu'à partir de là, il va pouvoir demander un match-up contre genre Oliveira, Ferguson, Gaethje, n'importe qui, tu sais, qui est en position de lui donner un title shot dans le combat d'après. Enfin, je pense qu'il est à deux fights à peu près là, de la belt. Cyrus a gagné, évidemment. Ensuite, Dominic Cruz. Casey Kenny. Un autre bon combat serré, Casey Kenny, qui a fait exactement ce qu'on pensait qu'il allait faire. Il est un peu outmatch par Dominic Cruz, là, on ne se le cachera pas. Mais il a réussi à voler un round, puis il a réussi à rendre ce combat-là excessivement serré, juste en travaillant très fort, puis en lançant des leg kicks, puis en n'acceptant pas aucune position, puis en continuant à aller de l'avant. Puis il a réussi, là, au deuxième round, à vraiment limiter beaucoup le mouvement de Dominic Cruz, puis je pense que. Genre, dans la défaite, c'est une des bonnes performances de la soirée. Pour Cruz, c'est sûr que ça fait du bien là, de gagner comme ça. Surtout contre un gars qui n'était pas rank, un gars qu'on se dit sûrement un jour que Casey Kenny va être un des 15 meilleurs bantamweight au monde. Mais pour l'instant, il n'était pas ranked. Puis c'est vraiment genre une belle victoire pour Cruz qui, d'après moi, va bien vieillir d'un, mais de deux qui prouve que tu sais. Il est encore comme dans les top 10 de la division, puis que tu peux penser justement à faire un Cruz contre Edgar ou quelque chose comme ça dans le prochain combat, dans un main event de Fight Night, mettons, puis ça va avoir bien de l'allure, puis il y a personne qui va dire « Oh, je sais pas, peut-être que Cruz est un peu out of his prime, nanana. » Mais, regarde. C'est ça que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, Song Yadong, Kyler Phillips, c'était juste malade ce combat-là. Je suis vraiment content aussi pour Kyler Phillips parce que il a un style tellement funky, man. Puis, genre, non seulement il a un style funky, mais il s'en calisse, le gars. Il s'en calisse verrette de son adversaire, même si c'est genre un des brick-top powerful fighters, tu sais, les plus dangereux de la division. Fait juste aller de l'avant, il implémente son style, lance un paquet de strikes funky que tu vois pas souvent, mais que lui, pourtant, il réussit à bien faire flow ça dans sa game en général. Puis vraiment, une belle performance très, très, très impressionnante de la part de Kyler Phillips. Puis, Krim Yadong était ranké là, dans les rankings de l'UFC, même si je suis peut-être pas d'accord avec ça. Fait que Kyler Phillips va probablement être ranké le lundi matin. Fait que ça l'ouvre des portes, surtout pour des combats le fun, parce qu'il n'y a probablement aucune division que le top 15 et les environs du top 15 sont autant le fun présentement qu'à 135 livres. Puis Kyler Phillips, c'est un malade mental, puis il va juste aller là donner des action fights. Puis d'après moi, je pense pas que ça va devenir un top 5 fighter ni rien, mais vas-tu me dire que tu checkerais pas Kyler Phillips contre Pedro Munhoz demain matin, toi, ou contre Rob Font, ou contre Cody Stamann, ou contre Merab Valijvili, ou contre Ricky Simon, ou contre n'importe quel de ces gars-là. Moi, personnellement, je suis acheteur si vous me faites cette proposition-là. Fait que Vraiment une belle performance. En parlant d'autres belles performances, mon boy, absolument saut comme un pote, s'il entend presque pas, mais il arrive dans la cage, puis il travaille, puis il travaille, puis il travaille, puis il out-grapple. Dans une autre performance un peu cabibesque, là, on peut se le dire ainsi, vraiment un bout de colle. Là, c'est agrippé à Joseph Benavidez, le draguer au sol, le lander du dommage, a pesé sur lui, puis juste travailler plus fort que lui pendant 15 minutes. Puis on a vu que Joby, tu sais, j'étais pas prêt à dire qu'il avait pris un coup de vieux de par ses deux défaites contre Davison Figueiredo, parce que c'est Davison Figueiredo, mais là, tu sais, Askarov est quand même un top 5 dans la division, mais on l'a vu prendre un step down qui, habituellement, quand Benavidez perdait contre les Figueiredo, les Demetrius Johnson, les Dominic Cruz, gagnait son rebound fight après contre les meilleurs contenders dans la division. Puis là, c'est chose qu'il semble moins capable de faire. Donc, c'est probablement la fin du top contender Joseph Benavidez. C'est probablement le début du top contender Askar Askarov qui, je pense pas qu'il y a beaucoup de chance contre Davison Figueiredo, mais il s'est réussi à s'agripper à lui et à rendre ça un grapple fest. On sait que Figueiredo est aussi très le fun, très actif, très impressionnant au sol. Puis, ben, crime, notre chum Askar Askarov va être bien game d'engager dans ce genre de combat-là, même si je ne suis pas sûr s'il va le gagner. On continue. Rogerio Bontorin, Kai Kara France. Ça allait très bien pour Bontorin, c'est un bon petit combat. Puis le Kai Kara France, c'était le full drill, c'est à la fin du round. Super impressionnant. Beau comeback win d'un round pour Kai Kara France. Que ça c'est réussi. Continue, tu sais, être à peu près le plus journeyman des flyweights, là, en gagne un, en perd un. Quand il affronte quelqu'un vraiment élite, il perd. Mais quand il affronte un autre bon middle of the pack flyweight comme Rogerio Bontorin, ben, il est capable d'aller sortir des victoires. Puis toujours de façon intéressante. C'est genre, c'est jamais plate. C'est toujours des bons combats de striking. Et puis, écoute, belle performance pour lui, belle victoire. Ça le remet sur le bon chemin. Et puis, c'est pas mal ça. Ensuite, Tim Elliott, Jordan Espinosa. Tim Elliott n'a pas été Tim Elliott pour une fois, ce qui est le fun. Tim Elliott, d'habitude, il est comme un world killer pendant un round, puis après, il gasse tellement badly que tu le reconnais plus. Là, il a vraiment été on control avec son grappling pendant trois rounds de ce combat-là. C'est une belle performance de vétéran que tu as besoin de voir là, d'un gars comme Tim Elliott, puis qu'il a livré. Fait que shout-out à lui pour ça. Ensuite, ça, c'était complètement stupide, ce combat-là. Kennedy Nzeshuku, Carlos Ulberg, puis écoute, Ulberg a commencé, il avait l'air du complet tueur de toutes les tueurs. Genre, belle technique, super slick, ça flowait bien, landait du dommage, les coups de genoux qui passaient sur Nzeshuku, c'était... Genre, on pensait qu'elle allait le finir à tout moment, mais rapidement, on a vu qu'il allait pas être capable de keep up ce pace-là. Puis Nzeshuku, il avait l'air fatigué aussi, mais il avait l'air constant. Il avait pas l'air de s'être poussé genre vraiment trop loin dans ce combat-là. Puis c'est juste ça qui est arrivé avec Ulberg un moment donné. T'sais, c'est tellement gassante que t'es même plus capable de lever ses mains, puis il s'est fait allumer bien raide. Le pauvre, puis ça qui arrive quand tu fais ton entrée dans l'UFC avec genre, mec, t'as pas logique de donner 3 combats pro, l'UFC donne 5 combats pro, mais bref, très très peu d'expérience pro. Puis tu vois clairement le gars, la promesse est là, les skills sont là, il va juste falloir qu'il sache un peu mieux comment gérer son énergie, puis ça va être une bonne leçon pour lui, je pense. Puis on peut s'attendre à quand même de belles choses, du moins des action fights de sa part dans le futur. Puis pour Nzeshuku, continue à être probablement le Nigérien le moins impressionnant sur tout le roster, mais il réussit quand même à gagner des combats dans l'UFC, fait que c'est pas si mauvais que ça. Ensuite, Sean Brady, Jake Matthews, c'est l'affaire que j'ai à dire là-dessus, c'est que Sean Brady, c'est un tueur, man. Genre, c'est un problème dans la division 170 livres, ce gars-là. Il est intelligent debout de la manière dont il laisse aller ses mains, capable de travailler en combinaison, mais il est aussi capable de pick ses shots puis d'être puissant. Puis au sol, man, c'est un tueur. Il est lourd sur le top. Tu le vois dans TV là, que son top, il est lourd, puis que la manière qu'il place ses hanches. Puis, tu vois, ça doit être l'enfer de temps. D'après moi, tu files plus que t'as un golo sur toi, quand t'as Sean Brady sur toi, que quand t'as Jan Blachowicz sur toi. Puis c'est sûr que Jan Blachowicz, c'est un autre gars de 200 quelques livres qui est en dessous de lui, puis Sean Brady, c'est un gars de 170 livres, mais tu sais, considérant l'écart de poids, je suis sûr que Sean Brady est un 170 plus pesant au sol, que Blachowicz est un 205 pesant. Fait que ça, c'est pas pesé. Une très belle performance pour Sean Brady. Puis comme je dis, moi, il a callé Belal Muhammad. Si Muhammad qui gagne ou qui perd, ben s'il gagne contre Edwards, il se battra pas contre Sean Brady, c'est sûr, mais s'il perd contre Edwards, ça serait vraiment un beau combat, parce que je pense que Sean Brady, il est proche des rankings. Ça, ce sera pas long qu'il va être ranké. Puis comme j'ai dit, c'est un problème là, dans cette direction-là. Dans cette division-là, c'est assez. Et ça continue, les astuces de common bâtards de genre mes soeurs et frères de Belgique. qu'est-ce que vous dites, les boys? Genre, il y a plein de commentaires de scam là, dans le Facebook en ce moment. C'est weird. Mais bref. Livinia Souza, Amanda Lemos, Livinia Souza, aucun stand-up s'est fait décoller, c'est Beret, c'est drôle. Ensuite, Uros Medic, Alan Cruz. Alan Cruz aussi. C'est genre un des top buzz du Contender Series. Le gars vient de se faire péter à gueule par un genre un Serbe de l'Alaska qui avait 6 combats pro, dont 5 à Alaska Fight League. Où, genre, t'es pas supposé de sortir de là et d'être prêt à te battre dans l'UFC. Puis pourtant, ben, Medic paraît super bien. Il a de la belle promesse. Il était beaucoup trop content d'être là aussi à son entrevue d'après-combat. Il avait juste sorti de l'autre Texas pour se battre devant un crowd et de parler à Joe Rogan. Puis, en tout cas, il avait l'air motivé d'être là. Il avait l'air content d'être là. Il a montré des belles choses. Fait que j'ai hâte de voir la suite des choses pour lui. Alan Cruz, tout l'espoir que j'avais en lui vient de mourir. Puis c'est ça, premier combat maintenant, Mario Bautista, Trevin Jones. Mario Bautista est très très bon, encore une fois, il faisait sa petite affaire. Trevin Jones est juste un counter-striker venimeux, là. C'est incroyable, ça fait deux combats de suite que, c'est pas qu'il gagne pas, ça a l'air d'être son style un peu, de genre prendre ça tranquille, de pas nécessairement être en avant sur les scorecards, de pas plus en faire que son adversaire, mais de trouver juste le moment parfait pour lander un petit sneaky punch qui ferme les lumières à son adversaire. Les commentateurs chiolaient beaucoup sur le stoppage ici, mais je pense pas que c'est un mauvais stoppage, honnêtement. Je pense que Mario Bautista a vraiment tout fait là, pour rester dans ce combat-là, bouger, il répondait aux commandes de l'arbitre. Puis oui, il mangeait des tonnes de coups de poing en face, mais continuait à bouger, continuait à réagir. Puis c'est ça qui a fait qui est resté dans ce combat-là aussi longtemps. Fait que je pense pas que c'est un mauvais stoppage. Donc, pour récapituler, Jan Błachowicz a battu Israel Adesanya. Une belle performance, combat très serré pour les trois premiers rounds. Dans les deux derniers rounds, Błachowicz a réussi à lander des beaux takedowns, a montré qu'Israel Adesanya avait des choses à travailler. Une fois rendu le dos au sol, tu vois que c'est pas le même niveau de confortabilité que quand il se retrouve dans les autres phases du combat. Donc, il sait sur quoi travailler. Błachowicz qui défend sa ceinture et qui va probablement affronter Glover Teixeira dans son prochain combat. Pour Adesanya, évidemment, c'est sa première défaite pro et va retourner chez les middleweight là, pour continuer la suite des choses. Ensuite, Amanda Nunes a continué sa dévastation complète. Genre, jouer avec Megan Anderson comme si c'était un enfant. Ça, les deux n'avaient absolument rien à voir dans la même cage. Et puis, écoute, elle l'a dévasté complètement. Elle a passé un triangle inversé, puis elle l'a fini en armbar. Puis c'est des affaires que tu passes rien que pas à des combattants élites. Puis Amanda Nunes a passé à n'importe qui parce que c'est la chèvre lionne, la meilleure combattante féminine et une des meilleures combattantes qu'on a vues dans l'histoire des arts martiaux mixtes. Donc, complètement absolument sensationnel de la part d'Amanda Nunes et probablement la chose de quoi on va parler le plus en finissant de cette carte-là, le combat de Tit Bantamweight, Peter Yan, qui était en avance après un premier round quand même difficile, a réussi à take over au deuxième, a commencé à vraiment foutre la volée à Aljo au troisième, à foutre encore plus la volée à Aljo au quatrième. Puis à un moment donné, il a juste pogné la tête à deux mains pendant qu'Aljo il avait un genou à terre. Puis il a sacré un des coups de genou illégaux les plus blatant là, de l'histoire du MMA, mais aussi les plus brutales. Puis Aljamain Sterling n'a jamais été capable de s'en remettre. A essayé, l'arbitre lui a donné deux minutes, il a essayé de s'asseoir, il a essayé quasiment de se battre avec le ref pour se relever, mais tu voyais que même le fait d'essayer de s'asseoir, de bouger ses jambes pour trouver une manière de se lever debout, le gars perdait, qu'il lui avait les yeux, ça marchait pas, son affaire était complètement knock-out. Évidemment, ben, ce finish le soulève les passions. Là, présentement, on a beaucoup de gens qui devraient évoquer leurs pensées, mettons, si je faisais ça ainsi, sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, en tout cas, ça donne droit à un paquet d'opinions assez farfelues. Mais bon, ceci étant dit, il va avoir un rematch parce que Peter Yan est en train de prouver dans ce combat-là qu'il était clairement le meilleur 135 livres au monde, puis il va avoir la chance de prouver ça dans le rematch. Aljamain Sterling, c'est juste vraiment plate pour Aljo parce que c'est comme le rêve d'une vie de devenir champion de l'UFC. Puis lui est maintenant champion de l'UFC, mais de la manière comme que tu ne veux pas devenir champion de l'UFC. Puis on a vu comment ce combat-là se déroulait. Je pense que ça va être dur là, pour lui dans le rematch de comme aller gagner ça, aller chercher cette ceinture-là. Puis Écoute, si au final, Aljamain Sterling a juste été champion de l'UFC pendant un combat parce que son adversaire s'est disqualifié parce qu'il a collé un trop gros coup de genou dans la face, ça va être un drôle de footnote là, dans l'histoire de l'UFC, puis il va être considéré comme un des champions les plus farfelus de l'histoire. Malheureusement pour lui, c'est un excellent fighter. Puis tu sais, je souhaiterais là, quasiment là, après ce qui est arrivé ce soir, puis après ce qu'il y aura à vivre, de juste gagner le petit rematch, puis de prouver à tout le monde que oui, il est calibre championship dans l'UFC, mais de ce qu'on a vu là, de ce combat-là, ça se dirigeait pas comme ça, là, malheureusement, dans les derniers rounds, même que je commençais de plus en plus à m'attendre de voir un finish de la part de Peter Yan dans ce combat-là. Donc, à suivre, va assurément avoir un rematch. Là, c'est le temps de log out parce que je vais aller écouter genre la conférence de presse pour savoir ce qu'il se dit un peu après ce combat-là. Parce que demain à midi, ben, je vais être avec Greg pour le Hype Oak Podcast, toujours sur Facebook, sur YouTube, en direct, vous le savez comment ça se passe, et puis, ben, on va avoir écouté les conférences, on va avoir les opinions de Greg sur tout ce qui s'est passé. Je me demande comment il file après la défaite de son boy. Lui, ses deux fighters préférés là, viennent de perdre en ce début d'année. Fait que je me demande comment Greg se sent par rapport à ça, se sent par rapport à tout le reste des choses qui s'est passé sur cette carte-là. Fait qu'on va parler de ça avec lui demain. Et on va avoir encore plus, lui, pour parler des nouvelles de la semaine, de tout ce qui s'est passé dans le monde des arts martiaux mixtes. Donc, c'est ça. Merci à ceux qui m'ont écouté tout le long. Vous êtes bien smart. Merci à toutes les faux comptes qui sont venus commenter des scams bizarres avec leur cash app pour qu'on leur envoie de l'argent parce qu'on ne sait pas trop quoi. Au Bénin qui me fait un portefeuille d'argent. C'est quand même drôle les commentaires qu'ils ont laissé. Vous direz ça, mais bon. En tout cas, merci à tout le monde qui était là. On se voit demain pour le Hype Podcast. Ciao.